semaine, Claire Maillot rencontre Gérard Fromanger. Ce soir, s'émanciper des maîtres.
Bonsoir Gérard Fromanger. Merci de nous accueillir ici, dans votre atelier parisien. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux ?
Oh, écoutez, je vais essayer, mais... c'est situé à la Bastille, à quoi, 50 mètres de la place, à peu près, rue de la Roquette, et dans une cour, ce qui fait que je suis au centre, un des centres de Paris, au milieu d'une animation folle, jour et nuit, dans une cour où il n'y a pas de bruit, en principe, la nuit. Et un rez-de-chaussée qui a une histoire. Parce que la cour qui est assez grande, qui s'appelle cour du Cantal, et oui, parce que c'était au fond le lieu géométrique de l'émigration auvergnate à Paris. D'où la gare d'Austerlitz, etc. En général, comme vous le savez, les gares sont entourées des régionaux de l'étape. Les Normands sont autour de Saint-Lazare, les Bretons autour de Montparnasse, etc. etc. Et probablement les Ch'tis, gare du Nord. Et alors donc, lieu géométrique des Auvergnats et tout le quartier et autour de cet atelier, donc, était fait de moins en moins, mais était fait de bougnats et de marchands de charbon, etc. Et même, il y a 40 ans, quand je suis arrivé dans ce quartier, il y avait encore une mémé avec une vache et des poules qui vendaient du lait et des œufs, rue de Lappe. Ah, c'est pas rien. C'est extraordinaire.
Cette localisation qui vous a plu ou c'est ce lieu ? Ce grand studio, cette grande pièce, vous pouvez nous la décrire de l'intérieur ?
Alors, ensuite, c'était le quartier, mais je répondrai à votre question, mais c'était le quartier du meuble. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui ont remplacé les artisans du meuble dans leurs ateliers, rez-de-chaussée, étage, etc. À une époque, il y avait un incendie tous les jours, probablement pour se faire rembourser par les assurances avant de vendre les spots, enfin j'en sais rien. Mais on disait ça. Et en fait, la cour et les immeubles, dit-on, étaient la caserne des gardiens de la prison de la Bastille. Et tous les rez-de-chaussée étaient les écuries des gardiens. Et donc, nous sommes dans une des écuries des gardiens de la prison de la Bastille, qui est devenue plus tard un dancing avec des filles au premier pour les Auvergnats, les petites Auvergnates arrivées à Paris, serveuses, etc., ouvrières, dans tous les métiers. Alors, quand je suis arrivé, il y avait encore une boule qui tourne là, au plafond. Donc c'est un endroit où les filles et les garçons ont rêvé pendant des générations, après avoir été le rêve des chevaux, c'était le rêve des hommes et des filles. Enfin, c'est un endroit qui a une histoire, donc. Et donc qui a environ 100 mètres carrés, qui est un peu un grand carré, ouvert partout, avec des rideaux, comme un théâtre. Je peux faire une chambre, je peux faire une cuisine, je peux faire avec les rideaux. J'ouvre, je ferme, ça change. C'est une sorte de machine à vivre qui me va très bien. Voilà, alors il y a des artistes qui ont 300 mètres carrés à Malakoff ou à Montreuil. Moi, je préfère mon petit 100 mètres carrés, ce qui est une chance. Mais même, je préférerais, je crois, une chambre de bonne, ou que j'ai eue pendant longtemps, dans d'autres quartiers, que 300 mètres carrés.
Sa localisation, pour quelqu'un qui connaît votre travail, elle fait sens, vous l'avez dit. Nous sommes rue de la Roquette, c'est un quartier très animé. Alors il suffit de faire quelques pas pour franchir la porte cochère et pour retrouver l'agitation urbaine, les magasins, le bruit, la foule, les passants, et être d'une certaine manière plongé dans une de vos peintures. On pourrait croire qu'on est une de ces silhouettes que vous n'avez eu de cesse de peindre dans ces aplats de couleurs vives depuis les années 60. Alors la rue, la ville, la consommation, l'anonymat, les médias, les luttes sociales, voilà autant de sujets qui vous ont occupé toutes ces dernières années. Mais c'est difficile de résumer votre travail, Gérard Fromanger, parce que votre langage, votre grammaire picturale, votre style, vous l'avez remis en question très régulièrement à travers plus d'une soixantaine de séries. On en est à ça ? Le compte est bon ?
À peu près.
À peu près. Et puis évoquer le nom de Fromanger, c'est aussi convoquer toute une galaxie de figures importantes de l'histoire culturelle, politique, intellectuelle, puisque votre route a croisé celle de César, de Prévert, de Godard, de Deleuze, de Foucault, de Guattari, je m'arrête là. Et donc Fromanger, c'est aussi Mai 68, c'est aussi la figuration narrative. On n'aura pas assez d'une semaine pour épuiser tous les ressorts de cette œuvre qui était comme ça littéralement branchée sur le réel. Mais j'aimerais bien commencer par un mot que vous chérissez, que vous mettez systématiquement en avant. C'est votre noblesse, dites-vous, c'est celui de peintre, c'est votre identité, votre manière d'être au monde. Est-ce que pour vous, la peinture, c'était une évidence ?
Oh, quelle question ! Après cette longue préface, exergue.
On a tout dit, on s'arrête là.
Est-ce que c'était une évidence ? Bon, je pense, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. J'ai essayé de faire autre chose, mais j'étais incapable. Puis je suis tombé dedans comme Astérix. Mon père était peintre amateur. Il est mort à 95 ans. Il avait son petit atelier. Tout ça, enfin, tout petit, mais il avait un autre métier. Mais voilà. Son père était peintre. Son grand-père était peintre. Pour cette génération, ils étaient peintres. Donc, j'ai un peu né dedans, effectivement. J'étais fasciné par les chiffons, l'odeur de térébenthine, les pinceaux, les tubes de mon père, ses portraits de ma mère, ses bouquets de fleurs, la maison, tout ça. C'est comme un prestidigitateur. C'était pas terrible, ce qu'il faisait.
Bon, ça ressemblait à quoi ?
Dieu et son âme, mais c'est des tableaux. Il copiait beaucoup. Il copiait beaucoup des peintres qu'il aimait, des peintres anglais, ou alors Toulouse-Lautrec. Mais quand il faisait une chose originale, c'était avec des traces de ces styles-là, mais surtout une grande naïveté, donc un charme fou. C'était tellement honnête, tellement sincère, tellement naïf, que ça finissait par avoir un charme. Oui, donc votre question, est-ce que c'était une évidence ? L'évidence, j'ai dit oui, mais bon, si je réfléchis, l'évidence. C'est-à-dire, le faire tout petit, oui, c'était évident, parce que je faisais. Mais après ça, il faut réfléchir pour décider de faire de sa vie peintre ou artiste. Ça, c'est bon, évident. C'est un choix. Alors, tout autour de vous vous dit non. Même un père artiste, il ne fait pas ça. Il faut que tu gagnes ta vie, travaille, aie un deuxième métier. Finis tes études, et les familles, les amis, tout ça, qui font autre chose. Les copains d'école qui font toutes les écoles possibles ou qui rentrent dans le monde du travail, comme on dit. Peintre, artiste, on est très, très isolé, on est très seul dans cette décision. Je ne m'intéressais pas du tout les grandes écoles, tout ça. J'admirais, mais je n'étais pas capable. Il fallait une grande mémoire, il fallait aimer travailler jour et nuit. Il fallait un don pour les études que je n'avais pas.
Mais quand il s'agissait du dessin, là, vous travailliez.
Mais oui, beaucoup. Là, oui. Ah bah oui. Oui, c'était. Mais ce n'est pas du travail. C'était amusant. C'était amusant. C'était comme un jeu. C'était à la fois un jeu, une réflexion, un artisanat. Je faisais quelque chose de mes mains. C'est très important pour moi.
Et le dessin a eu une grande importance à cette époque-là, parce que vous êtes inscrit à l'Académie de la Grande Chaumière à Montparnasse, et là, vous avez dessiné beaucoup, beaucoup de tenues.
Ça, c'est vers 17, 18, 19 ans, oui. 17 ans, j'étais pas encore à la Grande Chaumière. Je dessinais tout ce que je voyais, mais chez moi, ou les copines, ou les copains, comme ça. La Grande Chaumière, ça faisait partie du choix. On va pas à la Grande Chaumière pour s'amuser. C'est un drôle de lieu, d'ailleurs.
Ça ressemblait à quoi ?
Bah, c'est toujours pareil. J'y étais récemment pour voir, comme ça, 50 ans après. Parce que je dis 60 ans après. J'ai dit, tiens, je passais par là, rue de la Grande Chaumière. Oui, parce que je voulais voir s'il existait toujours le restaurant auquel on mangeait, qui s'appelait Vajda. Pour un franc, on mangeait. Il y avait deux restaurants, la Soupe Merveilleuse, à côté de la Coupole, et Vajda. Enfin, là, c'est vraiment pour nous, quoi, les pauvres, enfin, les pauvres, oui, les étudiants qui n'avaient pas un rond. Et ça existe toujours. Mais c'est devenu un restaurant un peu bourgeois, un peu chicos. Mais quand même, ils sont gardés à peu près les mêmes tables. J'ai parlé avec le patron, là, il y a 15 jours. C'est marrant. Sympathique et tout. Oui, ah non, on garde l'esprit de l'époque et tout. Vous voyez, nos prix sont pas trop chers. Et puis, les gens qui font la grande chaumière à côté à l'académie, on les accueille volontiers, on a des prix. Enfin, vraiment, j'étais très étonné. Ça m'a fait plaisir. Alors oui, donc quand on va à la grande chaumière, c'est parce qu'on a décidé d'essayer de faire l'artiste, d'être peintre. Du coup, on se dit, bon, ben, les autres, ils font HEC, ils font, je sais pas quoi, moi, Polytechnique, il faut travailler de toute façon. Et je voyais bien que ce que je faisais, c'était sympathique, mais c'était pas très sérieux, quoi. C'était, quand je voyais ce que faisaient d'autres artistes, j'étais loin du compte. Quand vous avez 16, 17 ans et vous voyez les dessins d'Ingres, ou de Giacometti, par exemple.
Oui, parce que Giacometti était très important pour vous. Oui. Vous le copiez, comme vos pères copiaient
Non. Je ne le copiais pas. J'étais, comme tous les artistes jeunes, influencé. On est tous influencés par quelqu'un. C'est ce qui nous donne envie. Enfin, je termine sur la Grande Chaumière. Pour moi, c'est intéressant parce qu'on mettait un pied dans l'histoire de l'art. Rue de la Grande Chaumière, une maison très anonyme, un peu sale comme ça, un peu pas refaite, pas blanchie, restaurée. Un couloir d'entrée avec un secrétaire il avait une blouse blanche, ça faisait médecin ou ingénieur. Il regardait qui rentrait, qui sortait. Et dans le couloir, qui nous accueillait, qui ont donné là aussi un franc pour la journée, Madame Rose. Madame Rose, elle avait 80 ans, 85 ans. Elle avait les cheveux comme une barbe à papa, des cheveux blancs extraordinaires, une mousse de cheveux, des yeux bleus d'une beauté, Madame Rose. Madame Rose, cheveux blancs, yeux bleus ravissants. Elle avait été modèle de le gars de Livorno, Modigliani. Elle avait été modèle de Modi. Alors ça, donner un franc à Madame Rose qui avait été modèle. Ah oui, c'était... On rentrait dans la famille en quelque sorte. C'était important, très important. Et ensuite, on rentrait dans un atelier. Alors, toujours le même. Là, il y a 15 jours, j'étais toujours pareil. Entre 40 et 60 élèves, ou en tout cas artistes, entre guillemets, qui sont là. Un modèle sur une espèce d'estrade. Tout ça misérabiliste. Toujours pareil. Pas très propre, mais enfin, plutôt, disons, pas sale, mais poussiéreux, jamais repeint depuis 100 ans. Et des gens qui sont là depuis 40 ans, tous les jours, ils viennent dessiner, de tous les pays du monde. C'est étrange. Et c'est comme une thérapie, je ne sais pas, ils sont là. Alors ça va du plus jeune, ce que j'étais, jusqu'au plus âgé, les gens de 80 ans, 90 ans qui sont là. Ils dessinent tous les jours. Ils sont dans le mythe, ils rêvent, ils sont Montparnasse, oui. Et donc, la vie d'artiste commence là. D'abord, on est très intimidé en rentrant là et qu'on a 17 ans. Puis en même temps, on est le roi du pétrole. On est dedans. Vraiment, c'est des sentiments magnifiques. Et puis, petit à petit, les choses s'enclenchent à partir de ça.
Vous n'avez pas eu la même sensation quand vous êtes arrivé aux Beaux-Arts, parce que vous êtes resté 18 jours aux Beaux-Arts. Là, vous n'aviez pas l'impression d'en faire partie ou de commencer véritablement une vie de peintre.
C'était un défi quand même. Rentrer aux Beaux-Arts, c'était pas rien. J'y suis rentré pour faire une école, une année de préparatoire. On passait un an en préparatoire aux Beaux-Arts à l'époque. C'était comme ça. 59, 60, 61, par là. Je sais plus, 58, 62, je ne sais plus très bien exactement les dates. Mais j'ai gardé la carte. J'ai ma carte d'étudiant des Beaux-Arts. Alors d'abord, le monument est toujours magnifique, les cours, les salles, tout ça. Alors là, salle, poussiéreux la Grande Chaumière, mais là, salle, ça pue à la pisse dans les couloirs, c'était pas nettoyé, c'était à l'écart, laissez tomber les professeurs, mais si je vous en cite 10, vous n'en connaissez pas un seul. Aujourd'hui, quand même, il y a des bons professeurs, des artistes que je connais, ce sont de grands artistes, souvent. Mais là, à l'époque, c'était vraiment nul. C'est-à-dire, à Montparnasse, c'était tellement plus noble, plus utile, plus intéressant, plus intelligent. Il y avait plusieurs écoles. Alors, moi, j'avais une grande chaumière. Puis le soir, au cours du soir de la ville de Paris. Ça, c'était très bien, les cours du soir de la ville de Paris. Ça dure toujours. Alors là aussi, un franc. Et on restait 2 heures, de 8 à 10. Magnifique, ça. Là, alors là, c'était un bonheur de travailler là. Parce que c'était des gens de tous âges aussi, mais qui venaient vraiment travailler. Ils n'étaient pas là pour passer le temps. Donc, c'était très sérieux. Il y avait un silence formidable. On avait le sentiment d'être très surveillé, très, très contrôlé. Puis soi-même, on se contrôlait pour être à la hauteur de cette exigence. C'était exigeant. J'ai appris beaucoup, là, au cours du soir de la ville de Paris. Au bout de 2 ans, le maître, Lesbouny, s'appelait. Monsieur Lesbouny. C'est un grand maître. Il avait enseigné à beaucoup de grands artistes. Il m'a dit, tire-toi, fous le camp, fiche le camp, je ne veux plus te voir. Fiche le camp, reste pas là, tu vas devenir malade. T'en sais assez. Merci beaucoup. Je l'ai vu après. Bon, il est décédé, mais je l'ai vu souvent après. C'est un type formidable. Il disait 3 fois rien. Mais je ne sais pas pourquoi sa présence nous faisait devenir un peu plus intelligents. Parce que le dessin, c'est ça. C'est toute une histoire, le dessin. C'est très complexe. C'est parce que c'est rien. C'est rien. C'est un petit crayon, une mine de plomb dans la main. Une feuille, en principe, blanche. Et puis, toi, tu poses, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, voilà. Alors là, Giacometti, tu disais tout à l'heure, je l'ai pas copié, mais sa méthode, disons, était la même que celle que m'avait enseigné le Lesbouny en question. C'est-à-dire une méthode, disons, post-césanienne, qui va de Cézanne à nos jours. Cône, sphère, cercle, volume, etc. Et puis, étude de la ligne, etc. Et une grille post-cubiste, disons post-césanienne, post-cubiste, c'est-à-dire assez géométrique. Des cercles, des horizontales, des verticales, des transversales, puis avec ça, il arrive à construire une tête. Alors ça, bon, c'était donc l'école de dessin partait de là, c'était ça. Que ce soit chez André Lhote, qui avait aussi une académie sur le boulevard du Montparnasse, c'était toujours la méthode post-cubiste.
Alors, dites qu'au début des années 60, vous vous battez comme un fou contre l'emprise de Giacometti. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période où, d'une certaine manière, vous vous émancipez de, je ne sais pas si on peut parler de maître, mais en tout cas de cette figure
qui
est importante
maître,
pour
pourquoi
vous.
Pas, oui. Bah, oui. On est, tous les artistes sont influencés. C'est ça qui fait qu'on devient artiste. Bah, je ne peux pas parler au nom de tous les autres, mais quand même, j'en connais beaucoup. Et c'est très important d'être amoureux, en quelque sorte, de ces figures extraordinaires. Oui, c'est ça. Alors, j'étais arrivé à me dire, mais quand je me pince, c'est moi qui fais aïe. C'est con, hein, mais ça m'a beaucoup servi. Oui, ça m'a beaucoup servi pour chercher comment je fais aïe avec mon crayon. Comment je fais aïe avec mes pinceaux. Comment c'est simple, le dépoint de... Mais pour comprendre ça, il faut partir d'un truc très simple. On a envie de copier les maîtres. On a envie d'être comme eux et de faire comme eux quand on a 15, 16, 18, 20 ans.
Alors ce aïe, cette espèce d'épiphanie, vous allez l'avoir, je crois, en 65.
Épiphanie, oh, c'est pas rien.
Ce aïe, c'est mieux aïe.
Oui, oui.
Vous avez raison, c'est plus sonore, non, ça non, claque plus. Cette épiphanie, vous allez l'avoir en 65 avec une série qui s'appelle Les Pétrifiés. Et vous allez peindre une toile qui s'appelle Le Prince de Hombourg. Et vous dites que cette toile-là, c'est comme un manifeste et que tout est là, d'une certaine manière. Tout votre langage apparaît à ce moment-là. Vous allez le développer, bien sûr, par la suite. Et ce qui est très drôle avec cette toile, vous allez peut-être nous la décrire, mais c'est une toile extrêmement conquérante. C'est comme si elle vous représentait à ce moment-là, comme si vous empoigniez la vie et que vous vous disiez, maintenant, je peins, c'est Fromanger qui peint et c'est plus un élève de Giacometti ou un élève de la Grande Chaumière. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette toile, Le Prince de Hombourg ?
C'est une toile de 2 mètres par 2 mètres 50, donc assez grande, assez spectaculaire, disons, sur lequel il y a Gérard Philippe en prince de Hombourg, pas de Hambourg, de Hombourg, reproduit donc, je crois, peut-être 5 ou 7 fois, et qui semble comme une armée qui avance, disons, vers le spectateur, avec un fond noir et une couleur en camaïeu du blanc au vert pur. Donc noir et vert, grosso modo. Et l'idée à l'époque, c'était justement de m'émanciper des maîtres, d'espèce espérer tracer ma propre route. Et c'était à la fois face aux maîtres et face à mes copains, c'est-à-dire aux garçons et aux filles de ma génération, contre qui je savais que j'allais me battre pour, contre, à côté, etc., toute ma vie. On les connaît tout de suite. Hein. À 20 ans, on sait très bien qui sera Buren, Arroyo, Boltanski, Jean-Pierre Rey. On sait tout de suite. C'est drôle, d'ailleurs. Mm. Et pourtant, on en voit des centaines. Hein, mais on sait tout de suite qui sera qui. Qui a le don, qui a quelque chose que n'ont pas les autres. C'est mystérieux. C'est très bien. Il y a des choses mystérieuses qu'on ne peut pas expliquer. Et enfin, je passe d'un truc à l'autre, mais je parle toujours de la même chose.
Et votre
quand
truc
même.
À vous, c'était quoi, votre langage?
Ben, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Non, moi, je ne peux pas l'expliquer. Je peux dire simplement le matériau, c'est-à-dire de prendre une photo. Alors, c'était une photo d'Agnès Varda qu'elle avait prise au TNP. Elle était la photographe du TNP, c'est-à-dire, je crois que ça n'existe plus, le Théâtre National Populaire. Je crois que c'est, je ne sais pas, mais enfin, c'était Jean Villard, tout ça, toute cette époque-là. Et elle était là. Alors, il n'y avait pas encore d'épiscope, de projectionneuse, de tout ça. Alors, donc, j'avais agrandi au carré. On faisait ça au carré. Et tout le monde connaît ça, l'agrandissement au carré. Et c'était pour exposer à la fois dans ma galerie, parce que là, j'avais déjà une galerie depuis 2-3 ans, et à la fois exposer au Salon de la Jeune Peinture, qui était pour les jeunes l'endroit où on devait, il fallait être reçu à exposer. Alors tout ça, c'est des sujets... Parce que tout ça a tellement changé, mais c'était une autre époque. Mais
après cette série-là, vous n'avez plus jamais peint en gris, qui était votre couleur proche de Giacometti.
Bah, c'est-à-dire, avant, j'avais quand même 2, 3, 4 ans de cheminement à partir du gris, doucement, mettant doucement de la couleur. Ce n'est pas en une nuit. Il y a eu différentes étapes quand même. Mais enfin, assez rapide. Et puis tout à coup, radical. C'est-à-dire, ce qui m'a aidé... Aussi, il y avait un critique d'art, il s'appelait François Pluchart. Alors, il y avait Pierre Estany, il y avait Alain Jouffroy, il y avait Otto Hahn, qui étaient très connus à l'époque, c'était les critiques d'art de l'époque. Il y avait ceux de Londres, ceux de New York, puis ceux de Paris, c'était ceux-là. Et j'exposais donc à la galerie Macht, qui était à l'époque, c'était extraordinaire, c'était très important. Il y a encore la fondation Macht et puis une galerie, disons, moyenne, rue du Bac. Mais rue de Téhéran, il y avait la plus grande galerie du monde. C'était la plus importante avant Léo Castelli et aujourd'hui les Gagosian et compagnie. Il y avait Aimé Macht. Il y avait Picasso, Paris et Aimé Macht. J'étais chez Aimé Macht avec Giacometti et tout ça. Ah non, c'était grisant. C'était grisant, mais en même temps, j'avais mon orgueil. C'est-à-dire qu'il m'avait pris parce que ça ressemblait à Giacometti. Ah oui, mais non, alors là, moi, j'ai changé très vite. Et alors, bon, ça n'a plus marché avec Aimé Macht. Mais ce critique d'art, François Pluchart, il écrivait toutes les semaines dans le journal Combat. C'était un beau titre, Combat. Il avait deux pages, ça s'appelait Le Tour des Galeries. Il n'existe plus, tout ça. Enfin, à l'époque, on suivait les peintres, on suivait la jeunesse, on suivait, etc. C'était, alors est-ce qu'il a parlé de mon expo, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et on était très attentifs. Et sur une première exposition de groupe auquel j'avais participé à la Galerie Macht, il avait écrit « Fromanger », trois lignes. « Fromanger réussit, mais il réussit sans risque. » Oh ! Oh ! On m'aurait assassiné, c'était pareil. Ah oui, c'était un coup de couteau dans le vent, dans le cœur. Mais bon, bénéfique. Je dis, il a raison. Je dis, pourquoi ça me faisait souffrir? Parce qu'il avait raison. Je sentais bien qu'il avait raison. C'était chic, c'était très bien foutu, ça ressemblait à Giacometti. Tout le monde était content, le marchand, les collectionneurs, plus ou moins, enfin, etc. C'était rassurant. Ah, alors là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change du tout au tout, que ça n'allait pas du tout, quoi. Il fallait que je réfléchisse un peu à ce que j'étais en train de faire et de devenir. Voilà, il y en avait dans la même exposition, ils ont continué le même tableau toute leur vie, parce qu'ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas partis.
Alors, qu'est-ce qu'il s'agissait de dire avec cette figure de Gérard Philipe et ce prince de Hombourg?
D'abord, c'est une histoire, l'histoire du prince de Hombourg, sur l'obéissance, l'ordre, la liberté, l'indépendance, la guerre. Enfin, c'est beaucoup d'histoire. Le prince de Hambourg, alors voilà, en deux mots, c'est un jeune capitaine, là-bas en Prusse, qui est sur la ligne de front face aux Suédois, qui risque de venir occuper, vaincre et occuper la Prusse. Et lui, il est là, la nuit et tout, et puis il voit qu'il a une opportunité de vaincre les Suédois. Il y croit. Et il cherche la gloire, il cherche le succès, etc. Il y va. En une nuit, il vainc, il gagne sur les Suédois. Il les fout dehors. Le peuple l'applaudit, ça devient un héros national, etc. Et quand il rentre voir son prince, le prince le fout en tôle et il est condamné à mort parce qu'il a désobéi. Oh, merde alors, je vins, je vais gagner mon pays, je suis un héros national, mais... Et alors il a un procès quand même, il a un procès. Et au procès, il dit tout ça, il dit la vérité, il dit tout ce qu'il a pensé, etc. Et finalement, devant sa franchise, devant les raisons qu'il a données, il s'est excusé, il a demandé pardon au roi d'avoir désobéi, etc. Il dit oui, vous avez raison, mon prince, j'ai fait une bêtise, j'aurais jamais dû vous obéir, même si ça me a fait gagner, etc. Il a dit, ben écoute, c'est formidable, je te gracie et je te donne ma fille en mariage. Tu deviens prince. Et donc le voilà, il s'appelait Hambourg, il est devenu prince de Hambourg. Alors c'est une belle figure. En plus, Gérard Philippe, c'était une idole à l'époque.
Et sur la toile de Gérard Fromanger, quel sens ça prend ?
Ben, ça prend tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire toute l'histoire dont je viens de parler. Et ça prend surtout le contraire de l'art abstrait triomphant de l'époque. Et encore empreint de, on appelait ça de la peinture-peinture, type Bonnard, Vuillard, tout ça, qui est de la très bonne peinture, mais enfin d'une autre époque, dont étaient encore un peu entachés, disons, les peintres de ma génération, qui avançaient vers, on appelle ça la figuration narrative, ou la nouvelle figuration, ou comme ça, ou la figuration critique, enfin, il y a eu différentes appellations. Et j'ai essayé d'aller un peu plus loin avec ce tableau, d'être un peu plus radical que, bah oui, évidemment, y aller carrément, quoi, carrément. Puisque je changeais tout, autant y aller carrément. Donc c'était à la fois un manifeste face à la peinture abstraite, un manifeste de peintre quand même, d'un peintre qui essaye devant alors tout ce qui naissait à l'époque, les environnements, les petites vidéos, tout doucement, déjà encore timidement, mais enfin chez les jeunes, donc mes copains. Et comment est-ce qu'on peut faire sinon gagner, enfin exister la peinture face à toutes ces nouveautés, à toutes ces modernités? C'est pas simple, parce que c'est des techniques modernes, des trucs spectaculaires, ça fait de l'effet, donc c'est très difficile avec la peinture, qui est quand même un mode très ancien. Voilà, enfin, c'était... Alors, j'ai essayé ça toute ma vie. Voilà.
Merci, Gérard Fromanger.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Maillot avec Gérard Fromanger. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Olivia Branger, coordination Claire Poincignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.